Les contes de l'Alhambra, souvenirs de Boabdil. Tandis que mon esprit se trouvait ainsi échauffé au sujet de l'infortuné Boabdil, je voulus rechercher tout ce qui le rappelle sur ce théâtre de son règne et de ses malheurs. Dans la galerie de peinture du Généralife, on voit le portrait de ce prince. Il a de beaux traits, d'une expression douce et mélancolique, des cheveux blonds, un teint blanc et délicat. Si ce portrait est fidèle, celui qu'il représente a pu être faible, indécis. Mais rien dans sa physionomie ne donne l'idée de la malignité, encore moins de la cruauté. J'ai visité dernièrement la prison dans laquelle il fut renfermé pendant sa jeunesse, quand son indigne père méditait sa mort. C'est une chambre voûtée de la tour de Comares, au-dessous de la salle des ambassadeurs. Et, dans une pièce semblable, séparée de la première par un étroit passage, était renfermée sa mère, la vertueuse Aïcha Lahorra. Les murs de ces deux chambres sont d'une épaisseur prodigieuse, et les fenêtres étroites sont garnies de barreaux de fer. Une étroite galerie de pierre, avec un parapet très bas, règne de trois côtés de la tour et passe au-dessous de ses fenêtres. Mais il est encore très élevé au-dessus du sol. Il est probable que ce fût de là que la reine descendit son fils pendant la nuit, du côté de la colline, au pied de laquelle un domestique l'attendait avec un cheval pour le conduire dans les montagnes. En parcourant cette galerie, je me représentais la reine inquiète, appuyée contre le parapet, s'avançant pour écouter, avec les angoisses d'un cœur de mère. Les pas du cheval qui s'éloignait, emportant son fils le long de la vallée du Darran. Je cherchai ensuite la porte par laquelle Boabdil sortit de l'Alhambra pour remettre les clés de sa capitale. Par une triste fantaisie, il pria les rois catholiques de ne permettre à personne de passer après lui cette porte. Sa prière, suivant d'anciennes chroniques, lui fut accordée d'après la volonté de la reine Isabelle, qui plaignait ses malheurs. Et la porte fut murée. Longtemps mes recherches sur la place qu'elle avait occupée furent inutiles. Enfin, mon humble confident Matteo apprit en causant avec d'anciens résidents de la forteresse qu'il existait un portail ruiné par lequel on disait que le roi mort était sorti du fort, et que ce portail n'avait jamais été ouvert à la connaissance des plus vieux habitants. Il me conduisit à cette place. La porte est dans le centre de ce qui fut jadis une immense tour, nommée la Torre de los Siete Suelos, ou la Tour des Sept Étages. C'est un lieu fameux dans les histoires superstitieuses du voisinage, et l'on en fait le théâtre d'enchantements et d'étranges apparitions. Cette tour, jadis redoutable, n'est plus qu'un monceau de ruines, ayant été l'une de celles que les Français firent sauter avant d'évacuer la citadelle. Des morceaux de murailles énormes gisent épars sur la place, à moitié ensevelis sous les herbes touffues, ou cachés par les vignes et les figuiers. L'arc qui formait le portail, quoique rompu par la secousse, se voit encore. Et le dernier vœu du pauvre Boabdil a été rempli, bien que sans intention, car des gravois ont comblé l'ouverture et rendent le passage impossible. en suivant la route du monarque musulman. Tel que l'indiquent ses annales, je traversai à cheval la colline de Los Martiros en longeant le jardin du couvent de ce nom, et descendant ensuite un ravin rempli de massifs d'aloès et de bananiers, et bordé de grottes et de cabanes qui recelaient une fourmilière de bohémiens. C'était la route que prit Boabdil pour éviter de passer dans la ville. La descente était si escarpée que je fus obligé de mettre pied à terre et de conduire mon cheval par la bride. À la sortie du ravin, en passant par la Puerta de los Molinos, porte des moulins, je me trouvai sur la promenade publique, nommée le Prado, sur les bords du Xenil, et j'arrivai à une petite mosquée convertie en une chapelle ou ermitage consacré à Saint Sébastien. Sur une tablette fixée au mur, on lit que Boabdil remit en ce lieu les clés de Grenade au roi castillan. De là, je me rendis à petits pas, à travers la Vega, au village dans lequel la famille et les serviteurs du malheureux monarque l'attendaient après la reddition de sa capitale. La veille de son départ, il les avait fait sortir de l'Alhambra pour empêcher sa mère et sa sœur de participer à son humiliation et d'être exposés au regard des vainqueurs. Je continuai de suivre ces exilés dans leur route mélancolique et j'atteignis le pied d'une chaîne de montagnes arides et très élevées qui forment la barrière des Alpuxares. De l'un de ces sommets, auquel on donne le nom expressif de Cuesta de las Lagrimas, colline de larmes, l'infortuné Boabdil jeta un dernier regard sur Grenade. Plus loin, un chemin sablonneux serpente à travers une vaste solitude dont la tristesse devait paraître encore plus profonde aux yeux du malheureux prince, puisqu'elle le conduisait à l'exil. Je poussai mon cheval sur la cime du rocher où Boabdil exhala ses derniers regrets après avoir dit adieu d'un regard à sa terre chérie. Ce rocher porte encore le nom de El Último Suspiro del Moro, le dernier soupir du mort. Quelle douleur, en effet, ne devait-il pas ressentir en se voyant chassé d'un si beau royaume, d'une si belle demeure. Avec l'Alhambra, il avait cédé tous les honneurs de sa race, toute la gloire, toute la félicité de sa vie. Là, son affliction fut encore aigrie par les reproches de sa mère Aïcha, qui l'aida si souvent dans les périls et chercha vainement à lui inculquer sa fermeté d'âme. « Vous avez raison de pleurer comme une femme, ce que vous n'avez pu défendre comme un homme, » lui dit-elle en princesse orgueilleuse plutôt qu'en mère sensible. Quand cette anecdote fut contée à Charles Quint par l'évêque Guevara, l'empereur exprima le même mépris que la mère de Boabdil pour la faiblesse et l'irrésolution de ce malheureux prince. « Si j'avais été à sa place, dit le fier monarque, l'Alhambra eût été mon tombeau et je ne serais jamais sorti détrôné de l'enceinte des Alpuxares. » Combien il est facile, quand on est heureux et puissant, de prêcher l'héroïsme aux vaincus. Mais combien on songe peu que la vie peut être d'autant plus chère aux malheureux que c'est le seul bien qui leur reste. »